Ah, c'est magnifique d'être dans une église missionnaire. Hein. Nous sommes tous les missionnaires envoyés dans ce monde pour servir Dieu. Et en ce moment, nous sommes en mission dans le jeûne de Daniel. Et donc, Jean-Luc, tu veux venir m'aider là? Donc, si tu peux lire Marc chapitre 5. Donc ça, comme ça, vous pouvez trouver si vous voulez suivre. Marc chapitre 5. Et verset 21 jusqu'à 43.
Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille ». « Lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille.
Merci. Quelle belle histoire. Quelle histoire forte, puissante. Et ça a eu lieu il y a 2000 ans. Mais ça peut avoir lieu chaque jour dans nos vies, n'est-ce pas? Cette histoire a une puissance. Il y a la réalité de Jésus qui arrive. Et sur son chemin, il croise deux situations de crise. Voilà, on est aussi humain. On marche dans la vie, on croise, on vit quelquefois des situations de crise. Voilà, que faire? Que faire? Et loin, ce n'est pas juste deux situations de crise, mais je dirais deux générations en crise. Une jeune fille, dit dans le texte qu'elle a 12 ans, 12 années. au seuil de la maturité. Mais après, à côté d'elle, une dame un peu plus âgée, qui a souffert avec une perte de sang depuis combien de temps ? 12 ans. Et donc, c'est comme si ces deux générations sont un peu liées dans l'histoire par ce chiffre 12. Et ce qui est merveilleux, deux situations de crise. Peut-être nous aussi, on a des crises avec nos jeunes, la jeunesse. Mais quelquefois, on se regarde. J'ai une crise avec moi-même. C'est qu'on a les crises de foi après le Nouvel An. Mais c'est. Quelquefois, il y a des crises un peu plus spirituelles dans nos cœurs. Et donc, qu'est-ce que je dois faire entre ces deux crises ? Mais vous savez, ce que je trouve merveilleux dans ce passage, c'est qu'il y a Jésus là au milieu. Et dans le même jour, il guérit le passé et il ressuscite l'avenir. Le même jour. Il guérit toute cette maladie, toute cette accumulation de difficultés, mais en même temps, il ressuscite l'avenir. Il ressuscite la nouvelle génération. Et donc voilà, ça c'est bien beau. On a regardé tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que voilà, j'ai beaucoup de compassion pour la vieille dame là, et j'ai beaucoup de compassion pour la jeune fille il y a 2000 ans, mais j'ai dit, mais Seigneur, pour aujourd'hui, pour ma famille aujourd'hui, comment est-ce que ça peut marcher pour moi maintenant ? Donne-moi des solutions. Donc ce matin, j'aimerais vous donner, par ce passage, deux solutions pour votre passé, pour vos crises, pour vos saignements, pour vos maladies, pour vos cœurs brisés et tout le reste. Mais en même temps, comment ressusciter l'avenir ? Parce que ça nous intéresse aussi dans ce temps de jeûne pour nos enfants et pour la jeunesse. Et donc voilà, on va commencer avec la dame. Hein, cette pauvre dame, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 années. Waouh ! Quelle maladie ! Un cœur qui saigne ! Un problème. Donc voilà, ce qui s'est passé, on peut dire beaucoup de choses, mais il y avait trois choses, trois solutions pour elle. Hein. Vous écoutez bien, je vais vous donner trois solutions pour tout ce qui saigne en vous, toute blessure, les solutions pour la blessure. On est tous blessés, on est surtout blessés par le péché. Qu'est-ce que c'est le péché ? C'est manquer notre but dans la vie. C'est passer à côté du meilleur, c'est passer à côté de l'amour. C'est être victime, mais aussi être bourreau, parce que quelquefois, nous aussi, nous faisons du mal. Et tout ça, c'est une accumulation sur nous, depuis notre petite enfance. Mais il y a une chose, la première chose à faire. La dame, ayant entendu parler de Jésus, elle fait une chose. Toucher. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut toucher Jésus. Comment est-ce qu'on touche Jésus ? Par la foi. Un contact de cœur. Voilà, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Je serai guéri. Pardon ? Oui, touche son vêtement, la ceinture. Je n'ai pas compris là. Oui, mais bon. On touche Jésus. Vous pouvez toucher son vêtement, ses chaussures, ses cheveux, ses lunettes. Je ne sais pas si Jésus portait les lunettes. Mais Jésus, il était Jésus dans le passé, juif. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Jésus, il est en chacun de nous. Et quelquefois, quelqu'un va vous parler, un chrétien avec l'amour dans le cœur, vous allez toucher Jésus par sa parole. Ce matin, par ma prédication, vous pouvez toucher Jésus par la parole qui sort de ma bouche, mais il faut se laisser imprégner. Il faut avoir un contact. C'est ça le toucher. C'est un contact. Pas une religion, pas une petite prière, voilà, j'ai fait. C'est pas ça qui. Voilà, ça a sa place peut-être, mais toucher Jésus, c'est la première chose. Je vous encourage à ouvrir le cœur et de toucher Jésus. C'est un pas de foi. Et l'autre chose, c'est aussi toute la vérité. Elle était devant lui et lui a dit toute la vérité. Voilà qui je suis, vraiment. Sans masque. Sans masque. Voilà. Voilà, Seigneur, tu connais tout. On peut faire ça en privé avec Jésus, c'est merveilleux. mais tu as le droit de regard sur moi. Je te dis toute la vérité. Quelquefois, on dit que ça s'appelle la repentance. Repenser, penser autrement, changer de direction. Mais pour vraiment toucher Jésus, il faut changer de direction. On ne peut pas rester dans une mauvaise direction et dire « Jésus, viens avec moi dans ma mauvaise direction. Jésus, viens avec moi dans mon péché. » Non, il vous aime trop pour faire ça. Il dit « Non, vous venez vers moi. Allez, vous mettez votre vie en ordre. Vous me touchez, vous me dites toute la vérité. » C'est simple, hein? Ça c'est une solution. Hein? Toucher Jésus. Après, une puissance sorte de Jésus. Dans ma vie, j'ai expérimenté ça. Waouh, tu sens la puissance. La puissance de Dieu. C'est magnifique de sentir. Ce n'est pas juste les contes de fées. On sent quelquefois la libération en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et donc, toucher toute la vérité. Et après, Jésus lui dit une parole. C'est la troisième chose essentielle. Et Jésus, il dit tout simplement, c'est en verset 34 pour ceux qui suivent. Mais Jésus lui dit, et peut-être il vous dit ça ce matin, je l'espère. Ma fille, j'aime bien quand Jésus dit ma fille. J'aime bien dans la Bible quand c'est marqué dans la bouche de Jésus, ma fille. Parce que c'est souvent mon fils. On est tellement homme dans l'église. C'est un misogyne depuis des années. Mais là, d'un côté, quand est Jésus dans sa bouche, il y a j'aime bien entendre ma fille. Et ce matin, si vous êtes homme, vous pouvez dire mon fils. Mais quand même, je vais lire le texte. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Le mal du péché, le mal qui, peut-être ce péché qui touche le corps, qui nous décourage. Mais sois guéri de ce mal, de ce saignement, de cette perte d'énergie. Voilà la parole qui est toujours là. Ce n'était pas une parole dite juste il y a 2000 ans, mais c'est une parole dite aujourd'hui par ma bouche, inspirée par le Saint-Esprit. Et vous pouvez toucher Jésus ce matin avec cette parole. Va, ma fille, va en paix. Ma fille, va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix, shalom. La paix. Toucher toute la vérité. Et la parole qui guérit. Et cette femme, elle avait essayé d'acheter une guérison, elle est allée consulter tous les médecins, rien, que dalle. Mais avec Jésus, dans un instant, elle a dû dire, oh, combien j'ai gaspillé mon temps depuis 12 années, si seulement j'avais rencontré Jésus avant. Et c'est la même chose pour nous, pourquoi aller voir à droite, à gauche, aller aujourd'hui. Ça peut être le jour de toucher Jésus et d'être guéri. Alors voilà une solution. Et la femme elle-même, elle devait se mettre en action pour activer cette solution. C'est elle qui devait choisir sa solution. Mais pour la petite fille, elle était tellement opprimée qu'elle ne pouvait rien faire. C'était d'autres qui devaient trouver la solution pour elle. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Parce que nous prions pour nos enfants et nous prions pour la jeunesse en ce moment. Et donc, en donnant la deuxième solution, hein, ce que je vais faire maintenant, en donnant la deuxième solution pour la jeune fille, je vais vous donner sept principes. Sept principes de ce passage. Donc, peut-être j'irai un peu vite, mais sept principes. Il faut toujours avoir sept, hein, pas six, pas huit, sept. Et donc, la première chose, on peut regarder dans verset 23, en Marc 5. La première chose, il y a une demande ardente. D'accord, il y a quelqu'un qui dit, je veux prier, je veux changer la situation. Et il y a la prière, il y a une demande ardente. Pas juste, oh, si tu veux. Et donc, c'est le papa qui demande ici. Il dit, ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ça, c'est une prière pour nous tous. On a encore une semaine. Hein? Encore une semaine à tenir. Mais on prie pour nos enfants. Seigneur, que nos enfants soient sauvés. que nos enfants vivent, Seigneur. Et on n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour prier ça. Qu'ils soient sauvés, que la jeunesse soit sauvée, Seigneur. Tous ces découragés, tous ces déprimés, tous ces gens à côté de la plaque, tous ces gens tristes, qu'ils soient sauvés, Seigneur. Et qu'ils trouvent la vraie vie, parce qu'il y a la vie biologique, mais il y a une vie de Jésus en nous, qui est la vraie vie. C'est les jeudis, quelquefois ici, on a des moments de prière. Oh, je ne peux pas expliquer combien c'est beau, quelquefois, ce que nous vivons. Et jeudi dernier, fait de l'éternel tes délices. On était là, on était vraiment dans la présence de Dieu. Et le jeudi après-midi, je me suis promené dans les cinq lacs autour de nous. Et j'étais là, j'étais comme au paradis. Je ne peux pas vous dire. J'ai dit, oh, mais j'aimerais que tout le monde expérimente ça. Je m'en foutais royalement de tous mes problèmes, de toutes les situations. J'étais là, je voyais la nature. Et cette nature était imprégnée d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé un oiseau autrement. Autrement que oh, l'oiseau. Presque. Comme un moment. J'avais pas pris la drogue, hein, je vous assure. J'étais pas en LSD ou je sais pas. Mais c'était super. Et je dirais que la qualité de vie que Dieu nous donne, ça peut augmenter notre capacité de vivre. Et c'est ce que je veux pour les jeunes. Qui vivent. Et donc ça, c'est la première chose, une demande ardente. Et donc, vous savez, quand quelqu'un dit « Seigneur, je veux que mes enfants soient sauvés, je veux que la jeunesse soit sauvée », est-ce que ça va être un long fleuve tranquille? Non. Parce qu'on a un ennemi dans ce monde. Vous savez, celui qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, celui qui ment, celui qui décourage. Il y a toujours une opposition. C'est naïf de penser qu'il n'y a pas d'opposition. Et quand vous décidez de prier et de faire quelque chose pour Dieu, vous allez vous rencontrer très vite qu'il y a une opposition. Et l'opposition se trouve très vite en verset 35. Parce que là, tout d'un coup, ce gars, il demande à Jésus, « Viens Jésus, j'ai la foi, tu vas changer ma situation, tu vas sauver ma vie. » Et tout d'un coup, la douche froide, mais vraiment la douche froide. Verset 35. Les gens, ils arrivent, ils disent, ta fille est morte. Bah, fini. C'est fini. Ta fille est morte. On ne peut plus rien faire pour la jeunesse en France. C'est fini, c'est le jugement, c'est Jésus revient demain, et voilà, c'est fini. Et voilà, tac. Et donc, c'est fini, donc. C'est fini, on arrête. Oh, voilà, ça fait 30 ans que je prie pour tel et tel. Il devient de pire en pire. Allez, c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est ce que Satan va dire. Et dans cette phrase-là, ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître? Voilà, c'est ça qu'il vous dit. Pourquoi importuner encore le maître? Pourquoi? C'est pas la peine. Alors moi, je dirais, il faut surmonter l'opposition. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut persévérer. Ça, c'est la réussite de la prière. La réussite de la prière est tout simple, ne pas arrêter. D'accord? Ça fait 30 ans que je prie. Et je ne vais pas arrêter de prier jusqu'à ma mort ou jusqu'à mon enlèvement, je ne sais pas. Mais je ne vais pas m'arrêter. L'échec de la prière, c'est quand tu arrêtes de prier. Et tu peux prier nul. Quelquefois, je suis sûr que beaucoup de mes prières ne sont pas très, très jolies et tout ça. Mais continue, continue. C'est comme un marathon. Quand tu cours, tu vas toujours terminer, mais il ne faut pas s'arrêter. Tu peux marcher, tu peux aller à genoux, tu peux même prendre une petite pause. Mais il faut toujours continuer. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Insister, amen. Amen, insister. La troisième chose, d'accord? Parce que c'est quand on commence à voir les montagnes, on dit, mais je suis stupide, ça ne va jamais changer quand même. Qu'est-ce que c'est cette femme qui nous demande de prier pour le monde musulman? Mais quand même, il faut regarder l'Arabie Saoudite. Il faut regarder même en France, dans les cités, c'est chaud. Hein? Est-ce que les choses peuvent vraiment changer? Et même dans ma famille, tu savais les situations que je vis et tout ça. Mais c'est là où il dit, verset 36, « Sois sans crainte, crois seulement. » Ça, c'est la troisième chose. Bannis la crainte. Bannis la crainte au nom de Jésus-Christ. Passez de la crainte à la foi. Ça, c'est toute une histoire. Hein? C'est facile à dire. C'est très facile à dire. Mais il faut essayer de le faire. De passer de la crainte à la foi. Ça, c'est une vocation pour nous tous. Hein? Ça, c'est la vocation de ma vie. Seigneur, la crainte. Surtout la crainte de l'échec. Beaucoup de gens n'osent même pas commencer leur voyage de peur d'échouer, de peur de ne pas arriver. Mais allez, osons, sois sans crainte. C'est Jésus qui le dit, sois sans crainte. Crois seulement, sois sans crainte, crois seulement. Sois sans crainte, crois seulement. Donc ça c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est un grand morceau maintenant ce que je vais dire, mais c'est dans la Bible, hein. Vous pouvez lire. C'est Jésus qui l'a fait. C'est, il y a quelque chose de scandaleux qui se passe. Il arrive et tout le monde pleure. Tout le monde est en train de pleurer, de se lamenter. Elle est morte. Et vraiment, il y a un grand bruit, un grand brouhaha. C'est l'enterrement presque. Et là, verset 39, il entra et leur dit, hein, ça a vraiment eu lieu. Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? Et après, c'est Jésus qui dit ceci. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Et après, paf, tu vois, tous les gens qui étaient tellement religieux, pleurent, ils commencent à se moquer de Jésus. Ils commencent à se moquer. Tu te prends pour qui? C'est nous, on sait qu'elle est morte. Il n'y a plus de pouce, elle est morte. Et Jésus dit, non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle dort. Et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Imaginez, ils avaient les gens, ils se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de sa foi. Donc là, quatrième chose, très importante. Je dirais, quelquefois, il faut un changement de paradigme pour nous. Là, c'est impossible.
Impossible.
Impossible, impossible. Non, allez, changement de paradigme. Moi, je l'ai dit d'une autre manière dans mes prêches. Espérez au-delà de vos réalités. Espérez au-delà de vos réalités. J'ai dit, mais c'est fou. Oui, c'est une folie. Oui. Jésus était fou là. Il a fait une proclamation folle de dire qu'elle dort. Mais il mentait pas. Il n'était pas stupide. Il était atteint. Il vivait à un autre niveau. C'est ça. Il vivait à un autre niveau. Il avait un autre paradigme. Parce que pour lui, la puissance de la résurrection, parce que lui, il était résurrection et vie. Jésus était résurrection et vie. Pour lui, le Père, le cœur de Père n'a jamais inventé la mort. La mort était une imposition de Satan à cause du péché. Mais Dieu n'a jamais inventé la mort dans sa création. Et donc là, Jésus était pleinement résurrection et donc pour lui c'était impossible d'accepter la mort. C'était absolument impossible, c'était l'antithèse de tout son être. Et je dirais, nous on n'est pas encore au ciel, mais quand nous serons au ciel, nous vivrons pareillement. Maintenant on est entre deux chaises. Bon, j'allais presque dire j'ai le cul entre... Pardon ?
La mort est la vie.
Oui, un défi. Le mort est un défi. Mais la mort est vaincue, alléluia. La mort est vaincue. Et Jésus est la résurrection et la vie. Et Jésus vivait. Il vivait dans ce paradigme. Il vivait dans ce paradigme. Et donc moi, je vous encourage. Quelquefois, on a le derrière entre deux chaises. Quelquefois, on dit, entre la réalité et le monde. Ah, le ciel. Mais je dirais qu'on puisse... Demandez au Saint-Esprit de changer notre paradigme devant le défi de la mort, devant le défi de la maladie, devant le défi de l'échec. Changez de paradigme. Quatrième chose. Cinquième chose. Vous savez, verset 37, il dit... Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Tu vois, et plus tard, Il chasse tous ceux qui se moquaient, qui pleuraient. Et il prend juste le père et la mère pour aller voir la fille avec Pierre, Jacques et Jean. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? Pour moi, je dirais, former des petits groupes de foi dans la prière. Des personnes qui croient avec vous. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de la foi qui compte. Il ne faut pas faire des alliances avec les moqueurs, ni avec les lamenteurs, c'est français ça, ni avec les gens toujours en deuil, qui se plaignent, ni les gens qui exagèrent même le mal. Quelquefois j'étais là et tu pries dans une réunion de prière, quelqu'un dit « Oh, j'ai mal à la tête, oh, attention, ça peut être le cancer, et après ça peut être ça. » Et pff, et après tu pries et ça devient 10 fois plus lourd. Et moi je dirais, il ne faut pas... Quand c'est des choses importantes, il faut être avec les gens qui ont la foi. Pour faire de l'évangélisation, on est avec les gens qui n'ont pas la foi. Alléluia, on prêche la parole et tout ça. Mais quand vous priez dans une réunion de prière, je préfère être 3 personnes qui croient à la puissance du Saint-Esprit et qui croient à la prière que les gens qui font une figuration. Quelquefois, on est juste là. Mais ça, c'est un principe. Il ne faut pas proclamer l'incrédulité. Il ne faut pas proclamer l'incrédulité. Je sais que c'est une lutte et je ne juge personne. Là, parce que moi, je le proclame tout le temps sur mes enfants, l'incrédulité. Et je dois me reprendre. Et je dis, mince, encore je l'ai fait. Parce qu'on est tellement conditionné de vivre comme ça. Mais de vivre dans cette intimité de foi, ça c'est la force d'une église. Et je vous encourage encore une semaine, peut-être si vous trouvez une autre personne, 3 personnes, vous dites, allez, on va prier avec foi. Pour tel et tel jeune, telle et telle situation. Donc ça, c'est la 5e chose. Formez un petit groupe qui croit. Formez un petit groupe et débarrassez-vous de tout ce qui est moqueur et tout ce qui est négatif. D'accord? Parce que ça n'aide pas la foi, la prière. Voilà, 5 minutes qui restent. 2 choses pour vous donner 7. Donc, chose la plus importante maintenant, le 6e point. Quand toutes ces choses sont en place, Jésus arrive vers la fille. Et vous savez, avant, c'était la femme qui devait toucher Jésus. Mais cette fois, dans sa grâce, c'est Jésus qui tend sa main pour toucher la fille. Et je dirais, il y a ces 2 côtés dans le ministère de Jésus. Quelquefois, nous devons le toucher. Mais quand on est trop fatigué, c'est lui qui nous touche. Alléluia. Si vous êtes trop fatigué pour avoir la foi, si vous êtes trop malade, si vous êtes tellement atteint par la mort, laisse Jésus vous toucher. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Et c'est ce que nous faisons pour nos enfants, pour ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont saisis par toutes sortes de choses. Mais nous sommes les mains de Jésus maintenant. C'est l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes la main de Jésus pour toucher, pour aller vers les gens. Et donc lui, comme pour la dame, la 6e chose, c'est une parole. Parce que c'est toujours la parole qui libère. La parole de foi, la parole de Jésus. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Jésus. Voilà, ça peut être adapté dans une culture qui est adaptée et tout ça. Mais cette parole, verset 41, il saisit l'enfant par la main, et lui dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Ah, ça peut être encore une semaine de prier ça ensemble. Encore une semaine de proclamer sur nos jeunes, Talita Kumi, Talita Kumi. Les gens vont penser que vous parlez en langue, c'est magnifique. Hein? Vous pouvez être là le matin, Talita Kumi, Talita Kumi. Ah, oh, alléluia. Mais Talita Kumi, c'est araméen. Talita Kumi, c'est ce que Jésus parlait. Talita Kumi, jeune fille, jeune garçon, jeune homme, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dire à notre génération. Il veut guérir cette génération. Il guérit le passé, il ressuscite l'avenir. Et donc que cette parole habite dans nos cœurs avec toute sa richesse. Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi, je te le dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes nos jeunes filles, tous nos jeunes garçons, et même nos jeunes garçons de 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans, on va prier pour eux encore. Encore proclamer Talitha Koumi pour ceux qui sont toujours dans leur péché. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et on veut qu'ils reçoivent ce don gratuit de Dieu. Et la dernière chose, parce que Jésus était bien français quand même, hein, verset 43, Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. C'est bien, dans une semaine, il va me dire, tu peux donner à manger à Robert. Le 9, on va fêter. Big Mac. Non. Mais la septième chose, bon, il a donné la parole, la jeune fille, elle s'est ressuscitée, c'était la victoire, c'était merveilleux. Mais la dernière chose, septième chose là, maintenir un environnement de croissance. Maintenir un environnement de croissance. Donne aux gens une nourriture spirituelle adaptée. Et je pense que ça c'est un grand défi pour nous, c'est pas juste d'appeler les jeunes, mais c'est de les maintenir en vie. C'est de maintenir cette génération en vie par une spiritualité, je dirais, appropriée, des choses qui sont adaptées à leur réalité. Et ça, je sais, pour moi, c'est un grand défi, mais c'est une grande prière. Allez, change mon paradigme, Seigneur, pour ça. Mais voilà deux solutions ce matin. Deux solutions. Pour nos blessures, qu'on touche Jésus, qu'on lui dit toute la vérité et qu'on reçoit sa parole qui nous guérit. Et pour les autres, qu'on a une demande ardente, qu'on surmonte l'opposition, qu'on bannit la crainte, qu'on ait ce changement de paradigme espérant au-delà de nos réalités, que nous formons des petits groupes persévérants, remplis de foi dans la prière, que nous recevons la parole Talitha Koumi et que nous créons des environnements appropriés pour nourrir cette nouvelle génération. Laisse-moi prier pour vous. Donc ce matin, si vous voulez toucher Jésus, là où vous êtes, hein, je demande à tout le monde juste de fermer les yeux. Mais si vous, ce matin, que vous connaissez le Seigneur ou que vous ne le connaissez pas, si vous voulez le toucher pour être guéri de quelque chose ce matin, juste lève la main là où vous êtes. Juste lève la main comme un signe de foi. C'est comme si vous touchez Jésus, vous touchez le bord de son vêtement ce matin. Et comme ça, je peux prier pour vous. Voilà, Seigneur, tu vois ces mains. Et Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, qu'une puissance sorte de toi, cette puissance d'amour, pour guérir, Seigneur, pour guérir les cœurs, pour guérir des saignements, pour guérir les corps et les âmes et les esprits, Seigneur. Et donc, vous qui avez les mains levées maintenant, soyez guéris, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et n'hésitez pas à venir me voir ou quelqu'un d'autre pour la prière après aussi. Et Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos enfants et pour cette jeunesse. Alors peut-être je peux vous demander tous juste de vous lever, si vous pouvez. Et on va juste dire Talitha Koumi ensemble. On va dire Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. D'accord? On va le dire trois fois. D'accord? Comme ça, comme une proclamation. Et c'est sur nos enfants. Hein? Quand vous dites ça, vous pensez à vos enfants, mais on va penser aussi à la jeunesse autour de nous. D'accord, trois fois, vous me suivez. Allez. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Que Dieu vous bénisse.